Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Fréquence 7 et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire découvrir les contes siciliens. On me pose souvent la question, est-ce que l'on doit continuer à raconter les contes dans lesquels on trouve les archétypes de la femme à la maison, de l'homme qui part à la guerre et tous ces archétypes de femmes, disons, soumises? Alors moi, la féministe, j'aurais tendance à répondre non. Eh bien, je réponds quand même oui. Parce que raconter des contes, c'est aussi être le témoin d'une certaine époque. Ça ne veut pas dire qu'on a gré à ce que disent exactement tous les contes. Et dans les contes, il y a plein de couches successives de choses à comprendre. Donc on peut aussi ne pas s'attarder sur le fait que la jeune fille soit toujours très belle et qu'elle reste à la maison, parce que le conte dit aussi autre chose. Donc il faut peut-être arrêter de s'arrêter justement à ces archétypes-là et voir ce que les contes transmettent. Et puis ce qu'il faut aussi, c'est raconter plein de sortes de contes. Des contes où les jeunes filles peuvent être à la maison et puis d'autres où les jeunes filles sont des guerrières. Des contes où les garçons sont des guerriers et puis d'autres où ils sont les plus malins et puis où ils sont tendres et sensibles. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut raconter plein de contes différents. Et évidemment, pas s'arrêter aux contes traditionnels qui sont restés actuellement, une dizaine, là, le Blanche-Neige et compagnie, qui sont pas forcément les contes les plus intéressants. Donc oui, on peut continuer à raconter ces contes archétypes, mais hein, il faut en raconter d'autres aussi. Alors c'est celui que j'ai choisi aujourd'hui, il m'a intéressé à ce propos. Je vous le fais découvrir tout de suite. Il était une fois un roi et une reine qui avaient une fille unique. Cette princesse avait de si beaux cheveux qu'elle passait ses journées à les coiffer et à les tresser elle-même, ne voulant en confier le soin à personne. Un jour, alors qu'elle se peignait, une palombe entra dans la chambre, prit le peigne dans son bec et s'enfuit. « Oh là 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 là, la palombe m'a volé mon peigne !» criait la princesse. Mais il n'y avait plus rien à faire, car l'oiseau avait disparu. Le lendemain, à la même heure, la palombe revint et s'empara cette fois des rubans et des lacets qui devaient être tressés dans les cheveux et s'évanouit dans les airs. « Oh ben, cette fois, la palombe m'a dérobé mes rubans !» Le troisième jour, à peine la princesse avait-elle fini de se laver les cheveux, la palombe apparut et alors qu'elle s'essuyait les mains, agrippa la serviette que la princesse avait encore sur les épaules et s'envola. La jeune fille, furieuse, déroula une petite échelle de soie par la fenêtre, la descendit et se lança à la poursuite de la palombe. Étrangement, la palombe ne s'enfuyait pas vraiment. Elle ne cherchait pas à distancer la princesse et semblait plutôt vouloir l'attendre, s'envolant chaque fois que celle-ci la rattrapait. Imaginez l'irritation de la princesse en train de lui courir après. La palombe disparut enfin dans un petit bois, la princesse toujours à ses trousses. Au beau milieu d'une clairière, la palombe s'engouffra dans une petite maison solitaire, la princesse à sa suite. En entrant, la princesse tomba nez à nez avec un beau jeune homme. Elle lui demanda « Est-ce que vous avez vu une belle palombe avec une serviette dans le bec ?»« Oh oui, » répondit le garçon. « Cette palombe, c'est moi. » « Vous ? Mais comment est-ce possible ? » ?»« Je suis devenue palombe après que les sorcières de la forêt m'ont jeté un sort et je ne quitterai cette forme que si tu passes une année, un mois et un jour sans bouger, sous le soleil et sous les étoiles, assise à la fenêtre de cette maison, les yeux fixés sur cette montagne où elles habitent, pendant que moi, je volerai. » À ce moment-là, seulement à ce moment-là, les sorcières me rendront définitivement mon apparence humaine. la princesse n'hésita pas. Elle s'assit à la fenêtre et la palombe prit son envol vers la montagne. Le premier jour passa, le second, le troisième. Les semaines passèrent. La malheureuse restait de marbre, mais devenait chaque jour plus noire, noire comme la poix. L'année, le mois et le jour s'écoulèrent. La palombe redevint homme, descendit la montagne et se rendit à la maison dans les bois. Mais quand le garçon vit la princesse ainsi, si noire, il s'écria « Pouah, que t'es vilaine! Tu n'as pas honte de te montrer ainsi devant un homme !» Et il la chassa. La pauvre petite crut en mourir, mais elle marcha à travers la campagne en pleurant à chaudes larmes. Trois sorcières vinrent à passer et lui demandèrent « Qu'as-tu donc ?» Entre deux sanglots, elle leur raconta sa mésaventure. « Ne sois pas inquiète, lui dirent-elles. Nous pouvons t'assurer que les choses n'en resteront pas là. » L'aînée des trois sorcières lui passa une main sur le visage. La seconde fit de même, puis la troisième. Et la princesse redevint belle, très belle, plus belle que le soleil. Elles se mirent ensuite en route de concert. Mais où allait-elle ? Vers la ville, dont le prince avait été transformé en palombe. D'un clin d'œil, les sorcières firent surgir de terre un palais 100 fois plus beau que celui du prince. Elles firent semblant de n'être que les servantes, et la princesse y semblait comme une véritable impératrice. Le lendemain, quand le prince vit la magnificence de ce palais, il crut rêver. Mais dès qu'il aperçut la belle jeune fille à une des fenêtres, il commença à la dévorer des yeux. Les sorcières avertirent la jeune princesse. « Si le prince te fait la cour, tu vas le faire attendre. » Comme prévu, le prince, qui n'en pouvait plus de la lorgner, de lui faire des œillades de loin, demanda à rendre visite à la nouvelle et mystérieuse voisine. La princesse, conseillée par les sorcières, refusa carrément. « Mais alors, si cela vous fait plaisir, « accepteriez-vous une invitation dans mon palais ?» fit encore demander le prince. La belle voisine fit répondre encore non. Le lendemain, à nouveau non. Mais le troisième jour, elle lui fit porter ce message. « Altesse, si vous voulez me voir, il vous suffit de lancer une passerelle entre votre balcon et le mien, mais elle doit être entièrement faite de pétales de rose. » En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le prince ordonna la construction d'un pont d'une épaisseur de 2 paumes, uniquement fait de pétales de roses. Il fallut que des dizaines de femmes cueillent toutes les roses du pays et cousent les pétales ensemble pour y parvenir. Et jamais on ne vit ouvrage plus éblouissant. Quand tout fut prêt, les sorcières dirent à la princesse « Habille-toi comme une grande impératrice. » Nous serons tes dames d'honneur. Emprunte de la passerelle, mais quand tu seras à mi-chemin, fais semblant de t'être piqué à une épine et laisse-nous agir ensuite, surtout que cela ait l'air naturel. » La princesse s'engagea sur la fragile passerelle, vêtue d'une robe rose comme on n'en vit jamais de par le monde, avec des bracelets et des colliers couverts de pierres précieuses. Au mi-temps, elle poussa un cri. « Aïe ! J'ai marché sur une épine !» Les sorcières l'entraînèrent alors vivement en arrière vers leur palais. Le prince, qui attendait avec impatience de l'autre côté, voyant l'affaire tourner court, voulut lui venir en aide. Mais on lui avait bien interdit de poser le pied sur le pont de rose. Il se mit à tout maudire autour de lui. On fit croire au prince que la jambe de la princesse avait gonflé. De sa fenêtre, il voyait entrer des médecins et des apothicaires avec des médicaments toujours nouveaux. On lui fit croire qu'elle était si faible qu'il faudrait bientôt lui donner le viatique. Il était le seul à ne pouvoir entrer dans le palais de la belle impératrice. 40 jours plus tard, on lui fit savoir qu'elle allait un peu mieux, mais que la convalescence serait encore longue. Quand elle fut enfin guérie, le prince demanda à nouveau à rencontrer la belle. Les sorcières aidèrent encore une fois la princesse à lui répondre « dis-lui que tu acceptes de lui rendre visite, mais que tu exiges cette fois une passerelle de jasmin. Et à mi-chemin, tu pourras encore te piquer à une épine. Le prince fit immédiatement cueillir toutes les fleurs de jasmin de son royaume. Les fit enfiler puis tisser pour former un pont de 3 paumes d'épaisseur entre les 2 palais. Et jamais on ne vit ouvrage plus délicat. Quand tout fut achevé, la belle impératrice s'engagea sur le pont. Le prince, de l'autre côté, ne la perdait pas de vue, mort d'angoisse à l'idée qu'il y ait à nouveau un contretemps. Et c'est alors qu'il entendit un hurlement. « Aïe, je suis morte! Une épine m'a transpercé le pied !» Les sorcières amenèrent prestement la princesse dans son palais. Imaginez le désespoir du prince qui se tordait les mains et s'arrachait les cheveux. Il harcelait ses serviteurs, car il ne pouvait ni la voir, ni même traverser l'espace qui les séparait, et n'avait plus qu'à se taper la tête contre les murs. Tant et si bien qu'au bout d'un mois, il finit lui-même par tomber malade, pour de bon, et il se mit au lit. Il continuait cependant à envoyer des émissaires pour prendre des nouvelles de sa santé et pour la supplier de le recevoir, même malade. « Mais enfin, dit-elle un jour aux ambassadeurs, que me veut votre prince qui a failli me tuer par 2 fois ?»« Il vous veut pour épouse, madame. »« Eh bien, dites-lui que s'il me veut, il faudra qu'il soit mourant et qu'il fasse déposer son cercueil sous les fenêtres de mon palais. Alors seulement, je consentirai à le voir et à l'épouser. » Le prince, qui aurait accompli n'importe quelle folie pour ses beaux yeux, fit aussitôt préparer un catafalque et des cierges, s'allongea en feignant d'être mort et se fit porter à la porte du palais inaccessible. La princesse descendit et se pencha sur le catafalque. « Oh, pouah ! Quel horrible visage ! C'est pour séduire une femme que tu oses te montrer ainsi ?» Et elle remonta aussi vite dans son palais. Le prince devint fou de colère quand il se rendit compte que la belle impératrice n'était autre que la jeune fille qu'il avait délivrée de son sortilège et qui le punissait de la même manière. À peine sorti de son cercueil, il envoyait encore des émissaires pour demander audience, mais les sorcières lui faisaient toujours répondre la même chose. « Non, seigneur. « Vous n'aurez pas notre maîtresse. Vous avez abandonné une malheureuse qui vous avait sauvé la vie. Elle était fille de roi et vous avez gâché sa vie. Maintenant, vous pouvez gâcher la vôtre, car elle ne veut plus de vous. » Savez-vous comment cette histoire se termine? Quand le prince fut presque mort de tristesse, les sorcières l'autorisèrent finalement à entrer dans le palais. C'est bien sincèrement qu'il demanda pardon et qu'il fut pardonné. Le mariage fut célébré dans la chapelle royale. Le prince invita les sorcières à rester avec eux, mais elles prirent congé et disparurent. La princesse fit venir ses parents et on fit la fête dans tout le royaume. Et ils vécurent heureux et contents. Et nous, nous grinçons des dents. Vous voyez qu'il y a des contes qui ne sont pas tellement dans les archétypes habituels. Voilà un deuxième conte sicilien. On raconte qu'il était une fois un comte aussi riche que la mer et qui avait une sœur belle comme il ne peut se dire. Elle était âgée de 18 ans. Très jaloux, il la tenait enfermée dans un appartement de son palais. Personne ne l'avait jamais vue, personne ne la connaissait. Le palais du fils du roi était voisin du leur. Comme la belle petite comtesse prisonnière ne supportait plus cette réclusion forcée, elle entreprit la nuit, sans faire de bruit, de creuser un trou dans le mur de sa chambre. Le jour, il était dissimulé derrière un grand tableau. De l'autre côté du mur se trouvait justement la chambre du prince. Et la jeune fille s'aperçut, quand elle eut fini son ouvrage, qu'il débouchait également derrière un grand tableau, de telle sorte que personne ne pouvait deviner le passage entre les 2 chambres. Une nuit, elle déplaça légèrement le tableau de la chambre princière. Elle aperçut un lustre précieux et lui demanda « Lustre d'or? Lustre d'argent? Que fait ton prince? Dort-il ou veille-t-il ? » Et le lustre lui répondit « Entrez, belle dame, entrez sans crainte. Le prince dort, n'ayez pas peur. » La petite comtesse entra dans la chambre et se coucha carrément à côté du prince. Celui-ci, réveillé, la prit dans ses bras, l'embrassa et lui dit « Madame, qui êtes-vous? D'où venez-vous? De quel pays ?» Et elle, riant à tout éclat de sa bouche menue, lui dit « Prince, que demandez-vous? Que regardez-vous? Faites donc silence et aimez !» Au petit matin, quand le prince se réveilla, il ne trouva plus personne à ses côtés. La belle déesse de la nuit s'était envolée. Il s'habilla en un éclair et appela son conseiller pour lui raconter ce qui était arrivé. « Que faut-il faire pour qu'elle demeure avec moi ?»« Votre Altesse, si vous l'embrassez à nouveau, attachez ses cheveux à votre bras. Ainsi, quand elle voudra disparaître, vous serez forcément réveillé. » Le soir venu, la petite comtesse renouvela sa question. « Lustre d'or, lustre d'argent, que fait ton prince? Dort-il ou veille-t-il » Et le lustre lui répondit encore « Entrez, belle dame, entrez sans crainte. Le prince dort, n'ayez pas peur. » Elle entra dans la chambre et se glissa dans le lit du prince. « Madame, qui êtes-vous? D'où venez-vous? De quel pays ?»« Prince, que demandez-vous? Que regardez-vous? Faites donc silence et aimez. » Le prince noua les beaux cheveux de la petite comtesse autour de son bras, mais dès qu'il ferma les yeux, celle-ci les coupa avec des petits ciseaux pour s'enfuir. Le prince se réveilla. « Conseiller, conseiller, la déesse s'est enfuie en me laissant ses cheveux !» Le conseiller lui répondit « Votre Altesse, la prochaine fois, attachez autour de votre cou la chaîne d'or qu'elle porte en collier. » La nuit suivante, la petite comtesse apparut de nouveau. « Lustre d'or, lustre d'argent !» Le prince, quand il la prit dans ses bras, lui demanda à nouveau « Madame, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Faites donc silence et aimez !» Le prince passa la chaîne d'or autour de son cou, mais dès qu'il s'endormit, elle brisa un maillon du collier et s'enfuit. Au matin, le prince fulmina « Conseiller, conseiller !» et il lui raconta sa nuit. Le conseiller lui dit alors « Votre Altesse, prenez un bassin rempli d'eau safranée et mettez-le au pied du lit. Quand elle enlèvera sa robe, faites-la tremper dans le bassin. Ainsi, quand elle la remettra et voudra partir, là où elle ira, elle laissera derrière elle une trace de couleur orangée. » La nuit tombée, le prince prépara le bassin avec le safran et alla se coucher. Et à minuit, le lustre entendit à nouveau « Lustre d'or, lustre d'argent, entrez belle dame, entrez sans crainte. » Le prince, quand il la vit, posa les mêmes questions et elle lui répondit encore « Faites donc silence et aimez. » Quand le prince se mit à ronfler, elle se leva en tapinois pour se sauver et trouva sa robe trempant dans le bassin d'eau safranée. Sans un bruit, elle essora sa robe avec soin et s'enfuit sans laisser de traces. À la suite de cette nuit, le prince attendit en vain sa mystérieuse divinité nocturne et il sombra dans le désespoir. Mais 9 mois plus tard, il se réveilla un matin et trouva à ses côtés dans le lit un bébé minuscule qui ressemblait à un angelot. Il s'habilla dans la seconde et hurla « Conseiller, conseiller !» Il accourut et le prince désigna le bébé en disant « Voilà certainement mon fils, mais comment faire pour savoir qui est sa mère ?» Le conseiller lui répondit « Votre Altesse, faites annoncer à tous qu'il est mort. Faites-le placer au milieu de l'église et faites ordonner à toutes les femmes de la ville de venir pleurer sur son cercueil. Celle qui pleurera le plus, celle-là sera sa mère. » Le prince suivit à la lettre le conseil reçu. Toutes sortes de femmes vinrent, qui disaient « mon fils » et qui repartaient comme elles étaient venues. La petite comtesse, qui avait trompé la surveillance de son frère, arriva la dernière, pleurant toutes ses larmes et se lamentant. « Oh, mon fils, pour avoir possédé trop de merveilles, j'ai dû couper mes cheveux. Pour avoir été trop belle, j'ai dû rompre ma chaîne d'or. Pour avoir été trop frivole, j'ai dû porter la tunique de safran. » Le prince et le conseiller et l'assemblée en chœur s'écrièrent « C'est la mère, c'est la mère !» Au même moment s'avança le comte, menaçant sa sœur de son épée dégainée. Mais le prince s'interposa et lui dit « Arrête-toi, comte, il n'y a aucune honte. Sœur de comte, elle est aussi femme de prince. » On les maria sur le champ et ils vécurent heureux et contents, alors que nous, nous sommes ceux qui grincent des dents.
Somewhere over the rainbow.
Sur ces bonnes paroles de femmes fortes qui font ce qu'elles veulent, Je vous propose de nous retrouver le mercredi et le samedi à 16h. Merci beaucoup Sylvain pour la technique. Et n'hésitez pas, vous l'avez compris, à raconter toutes ces histoires.